Bienvenue à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme qui accueille Entrevues depuis un an maintenant. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle soirée qui va vous présenter une revue particulière, Magasin du 19e siècle, qui en est à son 11e. On l'a vu arriver avec ce projet qui nous a séduit, si tant est qu'on est à l'être, par le 19e siècle. Si riche dans nos imaginaires maintenant. Et pour cette revue d'études, pas seulement littéraires, qui aborde cette période par des biais parfois surprenants comme celui-ci. Il devait être trois. José Luis Diaz, malheureusement, n'est pas présent ce soir, mais Jean-Didier Wagner et Mathilde Labbé vont vous parler savamment du projet de cette belle revue et de ce numéro plus précisément sur l'art de la récup. Je leur laisse la parole et vous souhaite une bonne soirée.
Bonsoir et merci beaucoup à Entrevue pour son accueil. On est très heureux de venir présenter le magasin du 19e siècle, qui est une revue qui a été fondée et qui est éditée par la Société des études romantiques et 19e. Alors il faut peut-être dire quelques mots pour commencer sur cette société elle-même. C'est une association qui a été fondée en 1970, principalement par des chercheurs en littérature. Et ensuite, elle a élargi son rayon d'action à de nombreuses disciplines, à toutes sortes d'approches, aussi bien la littérature donc, que les arts, les sciences, l'histoire culturelle, généralement, en fait, qui est un bon descriptif pour les activités de l'association, la musicologie, la philosophie, etc. Elle a été présidée d'abord par Max Milner, ensuite il y a eu Stéphane Michaud, Philippe Hamon, récemment José Luis Diaz, et aujourd'hui c'est Jean-Claude Dion, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études, qui est le président de la Société des études romantiques et 19e. Alors parmi ses activités, il y a la revue Romantisme, dont tu diras peut-être un mot aussi tout à l'heure, qui publie 4 numéros thématiques par an. Elle organise régulièrement des journées d'études, une journée des préparateurs d'agrégation qui a lieu tous les ans, des ateliers dans divers formats et un congrès avec des thématiques aussi larges que possible. Par exemple, les mondes du spectacle au 19e siècle, le 19e siècle face au futur, l'œil du 19e siècle et le dernier en 2021, vivre vite. Autres activités de la CERD, une lettre d'information électronique et puis un prix de recherche qu'elle partage avec de très nombreuses associations puisqu'elle a été à l'initiative d'un comité de liaison des associations 19e qui décerne ce prix de la recherche 19e tous les ans. Et la remise du prix, d'ailleurs, cette année se fera le 24 juin. À son initiative également, à l'initiative de la CERD, il y a un groupe de jeunes chercheurs, des doctoriales, particulièrement un groupe de jeunes chercheurs particulièrement actifs. J'ai eu la chance d'en faire partie, c'est comme ça que j'ai connu la CERD. Donc c'est une excellente introduction. Et puis il y a le magasin du 19e siècle, publié une fois par an, qui est soutenu par le CNL et qui traite chaque année d'un dossier nouveau dont on est très heureux de vous parler aujourd'hui.
Alors, pourquoi un magasin? Parce qu'on nous pose souvent le titre. Pourquoi ce titre-là en particulier? Alors, d'abord, un mot sur Romantisme. Romantisme, c'est notre grande revue scientifique, académique, internationale. Tous ceux qui ont fait des études de lettres sont passés un jour par les articles de Romantisme. Sa maîtresse d'œuvre est en ce moment Éléonore Verzi. Hein. Et donc, pour créer une nouvelle revue, il nous fallait trouver un titre nouveau, un format nouveau, qui élargisse surtout notre lectorat et tout, qui conserve en même temps une scientificité dans l'approche, mais je dirais en libérant l'écriture, en libérant la forme. Alors, la revue s'adresse d'abord aux passionnés du 19e. Elle est offerte à tous les adhérents de notre association. Il suffit d'adhérer à la Société des études romantiques et vous recevez tous les ans le nouveau numéro du magasin, mais il est accessible aussi, bien évidemment, en librairie à travers notre éditeur Champ Vallon. Alors, Bien évidemment, en grande partie, elle est réalisée par des universitaires et des chercheurs. Et pourquoi ce titre-là? Tout simplement parce qu'on a repris le titre qu'on trouve au XIXe siècle de magasin. Hein, lorsque vous regardez un peu le catalogue, la Bibliothèque nationale, par exemple, vous allez tomber sur le magasin pittoresque, le magasin du foyer, des feuilletons, des dames, des enfants. Et en fait, c'est un format hebdomadaire dont, si vous voulez, globalement, l'illustration que vous devez tous connaître, hein, est vraiment le prototype du format. C'est comment ça touche à toutes les activités du 19e siècle. Alors, autre axe important, comme tout magasin, le nôtre devait être illustré. Alors, il est vraiment de manière intensive, hein, si vous le feuilletez. Et en fait, le développement des bibliothèques numériques nous permet d'accéder à une masse documentaire, à des iconothèques qui nous permettent d'illustrer très luxueusement tous les numéros. Et un de nos membres du comité est chargé justement d'obtenir toutes ces images, de régler les droits, etc., ce qui n'est pas une mince affaire. Alors, comme vous voyez, notre maquette est un peu originale, elle est très, très différente des revues qu'on pourrait appeler, entre guillemets, savantes. Hein. Elle est réalisée par nos graphismes, et en fait, elle a été très souvent imitée. La revue de la BNF est un peu un démarquage du magasin. Hélas, la BNF n'a plus de revue aujourd'hui, et bon, le magasin est toujours là. Alors, en conclusion, c'est une revue ouverte à tous, d'une appropriation, je dirais, facile, mais toujours avec une garantie scientifique. Tous les articles passent bien sûr par le comité de rédaction, on les relit, on argumente dessus. Alors, comme survol des rubriques, comme vous vous en apercevez avec l'art de la récup, le principe, c'est d'abord d'avoir un dossier thématique, hein, qui organise l'axe principal de chaque dossier. Alors, on va l'explorer de la manière la plus interdisciplinaire, par des articles plus courts que les communications académiques. On fait à peu près des articles qui tournent entre 15 et 20 000 signes, sans aucune note de bas de page. Et bon, en fait, il y a des artifices qui permettent de s'en passer, notamment les parenthèses. Alors, on essaie d'épuiser les grandes directions offertes par le thème choisi en faisant appel à la communauté universitaire, sans jamais non plus oublier les étudiants en thèse qui peuvent ainsi se confronter à ce qui sera leur quotidien plus tard. Et les articles sont validés par le comité de lecture, mais nos remarques les plus fréquentes sont essayer de ne pas écrire de manière trop académique. Alors, pour mémoire, quelques numéros. Le premier a été en 2011, la femme auteur. On n'avait pas encore, je dirais, on ne disait pas encore autrice à l'époque, hein, mais c'était déjà, comment dire, alors ce qui est très intéressant, c'est que l'entretien du dernier numéro est avec Michel Perrault, et donc elle revient justement sur le statut de la femme au 19e siècle, la femme auteur principalement. Ensuite, chaque titre est une sorte de rêverie à la fois documentaire, puisqu'on est quand même dans le 19e, mais en essayant aussi de faire des clins d'œil au 20e siècle. Le deuxième numéro a été Les choses, bien évidemment, c'est-à-dire on a pastiché un peu le titre de Pérec pour s'intéresser à, comment dire, au rapport du 19e avec les objets. Alors, je ne vais pas tous les faire, systématiquement. Quand la ville dort, on étudie bien évidemment la nuit. Sexorama a une particularité, vu que c'était, je crois, à la même époque que la Bibliothèque nationale avait fait l'exposition L'Enfer avec le grand X qui était sur ses tours. Et nous, on a fait Sexorama, et je dois dire que c'est le numéro le épuisé aujourd'hui qui s'est le mieux vendu. Alors, les autres titres, en 2015, America. Et en 2016, on s'est intéressé à une thématique intéressante, c'est « Et la BD fut », avec un anachronisme, bien évidemment, puisque la BD n'existe pas encore. Mais on s'est intéressé beaucoup à l'illustration au 19e siècle, notamment, je dirais, à la préhistoire de la bande dessinée et à voir les rapports entre texte et image, pendant toute cette longue période qui amènera à la naissance de la bande dessinée au début, fin 19e, début 20e. La machine à gloire ensuite, c'est-à-dire comment se constitue, depuis surtout ces thèmes-là, il y a eu pas mal d'ouvrages intéressants qui ont... On a été un peu précurseurs sur certains. Et la machine à gloire en est un, je crois, parce qu'on s'est intéressé essentiellement comment le statut de l'écrivain à travers la diffusion de la presse, la naissance de la publicité, va complètement se modifier auprès des publics. Alors ensuite, Cosmopolis, l'universel cabotinage, qui est une variation, je dirais, de la machine à gloire. Ensuite, réseau, qui est un réseau, comment dire, qui est une thématique plus contemporaine. L'art de la récup aujourd'hui. Et à venir pour 2022, ça sera C'est la fête. Voilà. Alors, pourquoi l'art de la récup? C'est en fait qu'on envisage le 19e sous l'angle de la récupération, ce qui nous amène à explorer bien évidemment le monde des chiffonniers, l'industrie du livre, celle du vêtement, mais aussi la presse, parce que depuis plusieurs années déjà, des travaux sur l'écrivain journaliste, sur la presse, menés par le regretté Dominique Khalifa, par Alain Vaillant et Marie-Ève Terenti, ont fait émerger un monde littéraire différent qu'il a fallu reconfigurer devant la révolution du journal. Alors, enfin, que ce soit l'image du cycle, la question des styles, de la mode, des contenus de l'histoire, le 19e siècle comme aujourd'hui, en fait, il aime le vintage, quitte à le pasticher et en créer des imitations, comme les célèbres imitations des meubles de chez Boulle, dont les plus belles maisons s'honoraient. Imitation des meubles du XVIe siècle ou globalement de l'Ancien Régime. Alors, une autre partie importante dans cette revue, c'est la bibliographie et le florilège. La bibliographie est faite de façon très, très complète. Elle permet aux étudiants, normalement, juste, elle est un petit peu faite pour ça, d'avoir accès immédiatement à un ensemble de références qu'il peut utiliser et qu'il peut compléter aussi avec le florilège. Le florilège, c'est pour nous la sorte, la banque de données un peu de citations, d'extraits d'images qui viennent, illustrer la thématique sur laquelle on travaille. Alors, c'est un travail un petit peu collectif, hein, tout le monde vient avec ses découvertes. Et ça, c'est généralement José-Louis Diaz qui agence comme un puzzle toutes ces citations. Et c'est une des parties, qui est le plus apprécié par les lecteurs. Alors, une autre rubrique importante, c'est une rubrique d'actualité. Et c'est Mathilde qui va en parler, c'est le 19e siècle s'affiche.
Le 19e siècle s'affiche, effectivement, est consacré à l'actualité culturelle du 19e siècle. L'idée étant de montrer que le 19e siècle est toujours vivant, est toujours parmi nous, et on est très nombreux à l'alimenter parce qu'il y a beaucoup à faire. Cette actualité, elle est extrêmement dense tous les ans, dans tous les domaines. La rubrique sur laquelle l'actualité s'ouvre, c'est une rubrique d'art contemporain qu'on a intitulée « Le 19e siècle à l'avant-garde ». Quand Agathe Novak, le chevalier dont on parlait tout à l'heure, a proposé le lancement de cette rubrique, elle a en même temps proposé une interview avec deux jeunes artistes, Louise Hervé et Chloé Maillet, qui ont été le point de départ. Et ça a donné un petit peu la tonalité de la rubrique, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'artistes contemporains, mais souvent il y a des duos. Et donc l'idée, c'est de rencontrer ces artistes et d'écrire à partir de cette conversation d'atelier qui permet d'explorer les sources 19e-istes de l'art contemporain, des images qui ressurgissent, des recyclages, très souvent, et puis des redécouvertes d'anciennes techniques aussi régulièrement. Ces sources, elles ne sont pas toujours explicitées par les artistes, mais très souvent, elles nous ramènent vers de grands mythes 19e-istes. Et on peut constater une sorte de permanence du radeau de la Méduse dans l'art contemporain aujourd'hui. C'est assez frappant. Parmi les artistes qui ont été interviewés, donc il y avait Louise Hervé et Chloé Maillet, c'était le premier duo. Il y a ensuite eu un autre duo très intéressant, deux photographes, McDermott et McGo, qui ont exploré le 19e siècle via une sorte de voyage dans le temps professionnel en revivant les unes à la suite des autres les décennies du 19e siècle et en se replongeant dans les conditions de vie, les conditions de création de l'époque, y compris en renonçant à l'électricité. On a aussi rencontré Sarah Moon, Claire Tabouret, Joël Peter Witkin, qui intègre dans sa photographie non seulement des tableaux, mais aussi des techniques et des souvenirs iconiques du 19e siècle. Et puis, récemment, pour le numéro sur l'art de la récup, Elina Broserus, qui est une photographe finlandaise, qui considère la photographie comme un nouvel art de la peinture et qui nous a emmené dans la création de photographies à la Friedrich, dans lesquelles souvent elle pose devant un paysage de dos en utilisant différents types de déclencheurs avec toutes sortes de techniques inspirées en grande partie du 19e siècle. La rubrique exposition, tous les ans aussi, est extrêmement riche. Il s'agit d'actualité des expositions 19e, donc ce ne sont pas des comptes rendus, mais plutôt des synthèses sur de grandes thématiques qui donnent des entrées, des perspectives dans l'année culturelle. La rubrique à l'écran, tous les ans, et doit renoncer à certains articles parce que les films qui s'inspirent du 19e siècle, que ce soit des films en costume, inspirés de la tradition de la BBC, d'ailleurs, il y a eu au musée d'Orsay, là, au mois de mars, une journée d'études qui était portée par la CERD, organisée par le musée d'Orsay et la CERD, autour du 19e siècle à l'heure de la série télévisée. Et on serait étonné de la liste de ces séries qui s'inspirent du 19e siècle. Et puis, il y a des transpositions un peu moins évidentes, dont une assez magistrale qui a été traitée donc en 2020, Les Misérables, qui a donné lieu à un article dans le magazine du 19e siècle. La musique, évidemment, est une rubrique aussi dans laquelle il faut faire des choix, puisque c'est un peu le siècle roi de la programmation musicale tous les ans. Quand il y a une grande commémoration, on essaie de la traiter aussi à l'intérieur de cette rubrique. Cette année, il sera question de Flaubert, a posteriori, comme une sorte de bilan des commémorations Flaubert qui, en fait, ont duré quasiment 2 ans. Dans la rubrique « À la scène », on assiste souvent à d'intéressantes comparaisons entre des mises en scène de même pièce. La Cerisaie, par exemple, revient très, très régulièrement. Et ça permet de donner une sorte d'histoire des mises en scène qui, me semble-t-il, est assez intéressante. La rubrique « En littérature », aborde donc la rentrée littéraire au prisme du 19e siècle et là aussi les réécritures, les échos lointains, les romans historiques, les biofictions. On a une grande variété de genres qui puisent dans les mythes du 19e siècle. Dans la rubrique lieux, François Kerlouégan propose une entrée géographique dans le 19e siècle. Alors là, on sort un peu de l'actualité. Donc cette entrée géographique permet de visiter de manière réelle ou virtuelle des lieux qui sont soit disparus, soit préservés. Et c'est une rubrique, évidemment, qui repose sur les fonds photographiques évoqués tout à l'heure, donc, qui permettent de l'illustrer assez
richement. Et dans le dernier, ici, on a choisi comment... j'ai le trou de mémoire. ça va revenir. Bon, c'est pas grave. On s'est intéressé au boulevard, dans le numéro précédent. Et, la morgue, et bien évidemment, voilà. La morgue, en fait, oui, l'art de la récup, il y avait de l'art de la récup à la morgue. C'est ce qu'on a appris en regardant les commissaires de les rapports des commissaires de police. On trafiquait les cheveux des mourants et les dents, et on les revendait à des coiffeurs qui faisaient des perruques et d'autres qui faisaient autre chose avec les dents. Ah oui, c'était quelque chose qui le commissaire de police Massé en 1890 le relève. C'est assez étonnant quand même. Alors, une autre rubrique importante aussi, c'est la rubrique archives, qui est confiée à l'historien Jean-Claude Dion, qui, dans chaque numéro, ouvre les archives avec des documents très, 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 très différents, et là, qui sont généralement des découvertes pour tous les lecteurs, qui peuvent ainsi, compléter leurs sources. Intime.
C'est une rubrique, donc, également... déconnecté de l'actualité, qui publie aussi bien des articles que des entretiens avec des spécialistes de la question de l'intime. Et elle donne à lire différents portraits, mais aussi des réflexions sur les genres de l'intime, ou présente également des documents inédits. Et ça permet de prendre connaissance par petites touches pour le grand public, à l'intention du grand public, de tout un continent critique et théorique extrêmement touffu.
Alors, aussi une des particularités qui est généralement annoncée en couverture, c'est ce qu'est la rubrique qu'on appelle l'or 19e siècle, c'est-à-dire qu'on invite une personnalité étrangère, de temps en temps aussi c'est un universitaire, hein, ici c'est Michel Perrault, à venir parler de l'or 19e siècle. Alors c'est un long échange, une interview. Alors on a parlé tout à l'heure de Michel Houellebecq, il a ouvert la série. On a eu aussi Denis Podalydès, Laure Adler, Thomas Piketty, Éric Chevillard, Emmanuel Carrère, Lydie Salvert, Jacques Roubaud, Ernest Pignon, Ernest et André Walter, hein, puis ça recoupe aussi, comment dire, et Christian Prigent dans l'avant-dernier numéro. Et le dernier numéro, je vous invite à le découvrir, c'est Michel Perrault qui est interviewé par Jean-Claude Dion. Voilà, en gros, je dirais, on va brosser le menu habituel du magasin et on est ouvert à vos questions, bien évidemment. Il y a vos bulletins de souscription, mais on n'en a pas amené.
J'aurais une question avant d'entrer plus avant dans le numéro. Quel est le 19e siècle dont vous parlez? Quelles en sont les bords, les limites? Est-ce que parfois vous en sortez?
C'est un long 19e siècle, ouais. Ça c'est certain. Je crois qu'on a coutume de dire qu'il commence en 1802 et se termine en 1914. Voilà. Ça nous arrive parfois d'aller même un petit peu plus loin dans le siècle suivant, lorsque la cohérence des vies d'artistes, d'auteurs et des œuvres le commande.
Oui.
C'est un très long 19e siècle.
C'est un long 19e siècle, oui. C'est un 19e siècle à travers les âges, comme aurait dit Philippe Muret, d'une certaine façon.
C'est moins une question qu'un commentaire, une appréciation. En fait, je trouve cette revue, depuis que je la connais, c'est-à-dire depuis ses débuts, c'est à peu près comme si j'étais moi-même du 19e siècle. Non, mais littéralement faramineuse. Je trouve que c'est un travail absolument remarquable qui sait conserver les exigences universitaires, de rigueur universitaire, tout en s'émancipant de l'austérité d'une étude que peut avoir romantisme. D'ailleurs, mais c'est vrai que c'est tout à fait étrange.
C'est un format
que...
différent, romantisme. Ce n'est pas le même format.
Non, ce n'est pas... C'est donc, je trouve absolument passionnant, en plus, cette envie de faire résonner le 19e siècle avec des questions qui nous sont actuelles, me paraît le revivifier, parce qu'à la fois, le 19e siècle paraît avoir toutes les vertus, et puis ça apparaît le siècle de la bourgeoisie qui va un peu écraser sous un mobilier, Louis-Philippe, un certain nombre de choses. Et je trouve qu'à travers cette revue, vous faites réémerger des questions qu'on ne se posait pas. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est tout à fait exaltant, ce que vous faites.
C'est lié. Je parlais tout à l'heure de la presse, pour moi qui travaille beaucoup sur la presse. C'est lié aussi à la découverte d'un 19e siècle qui n'est pas uniquement un 19e siècle des grands écrivains, même s'ils sont présents. C'est un 19e siècle très élargi, dans lequel on rentre dans la vie quotidienne de façon très profonde, en fait. Je vous parlais tout à l'heure, de la morgue, par exemple. Quand on regarde attentivement, ça vous a paru un petit peu bizarre, mais la morgue est un spectacle au 19e siècle. C'est-à-dire que les gens vont... d'ailleurs, c'est présenté de manière pratiquement comme un spectacle qui a une grande verrière au-dessus. Les cadavres sont exposés sur des tables de marbre, de manière à ce qu'on les voit bien. Les vêtements sont pendus à côté. Et en fait, cette salle est une salle destinée à la reconnaissance. C'est-à-dire que les gens qui sont à la recherche d'un disparu peuvent voir si ce disparu a été retrouvé. Mais en fait, il y a une sorte de perversion. C'est devenu un spectacle pour la totalité des Parisiens, mais aussi des étrangers. Si on regarde les guides de Paris, qui sont très intéressants, on va voir morgue, visite de tel jour à tel jour, je crois que c'est gratuit, je pense que c'est pas payant, et les étrangers passent par là. Vous voyez, pour nous, ça nous paraît totalement, mais c'est pas plus étrange non plus que d'aller voir une exécution capitale non plus. Voilà.
Cette spectacularisation des corps, elle est récupérée par des artistes contemporains comme Joël Peter Witkin, qui photographie des corps venant de morgues en particulier des morgues mexicaines. Lui, il travaille dans le sud des États-Unis. Il photographie des corps, des morceaux de corps, des corps considérés comme exceptionnels. Et il les photographie, vivants ou morts d'ailleurs, avec des dispositifs qui sont inspirés de cette spectacularisation du 19e siècle.
Je rebondis sur la question, mais comment la revue est-elle perçue par, justement, on parlait d'une forme de revue plus institutionnelle, plus austère. On sait que les communautés de savants et de chercheurs fonctionnent parfois un peu bizarrement. On est dans un endroit qui en témoigne de temps en temps. Comment une telle pratique, justement, une telle façon d'envisager l'histoire savante, précise, etc., mêlée d'autres choses, ou avec un regard différent, plus ouvert, me semble-t-il, plus souple. Comment ça devient un objet collectif pour d'autres historiens? Comment on s'en sert? À qui elle s'adresse, cette revue? Parce que moi, je ne suis pas historien, mais en tout cas, ça m'intéresse davantage, moi, qu'une revue vraiment très austère, avec 27 000 notes, et, etc., des bibliographies qui n'en finissent pas, ou des débats un peu trop précis. Mais il y a le revers de la médaille. Je me demandais comment ça fonctionne. Et puis, vous êtes chez un éditeur aussi qui est un peu au milieu.
Oui, oui, en même temps, oui. Jean Vallon est un éditeur à la fois d'histoire, beaucoup d'histoire et de littérature aussi. Mais je crois qu'elle passe très bien. Parce qu'en fait, c'est une revue exposition, un petit peu, hein, si on réfléchit bien. C'est un peu cette mutation qui existe aujourd'hui, par exemple, dans un monde que je connais bien, c'est comme les bibliothèques, où on multiplie les expositions virtuelles en même temps que les expositions réelles. Là, je dirais, d'une certaine façon, c'est une exposition de l'imprimé ou imprimé. Et en fait, je dirais, notre garantie ou notre légitimité, s'il faut employer des grands mots, elle est bien évidemment dans le comité de rédaction, les gens qui signent, la manière dont tous les articles sont relus aussi. C'est pas, comment dire, une revue où on écrit n'importe quoi. C'est une revue où on essaye une sorte de pertinence scientifique. Maintenant, le reste, c'est comment l'écrire, c'est tout. C'est tout simplement comment éviter, par exemple, les notes de bas de page, écrire de façon plus plaisante, et peut-être rechercher plus l'écriture, hein, au service du sujet qui est traité. Voilà. Mais le fond doit rester le même, d'une certaine façon. La problématique, la manière de la soutenir, de l'exemplifier, etc., doit aussi être cohérente par rapport au monde académique. Voilà, c'est tout simplement une autre manière de dire l'histoire, ou l'histoire littéraire, ou l'histoire des spectacles, ou des expositions, etc.
Et je trouve que c'est un format qui reçoit plutôt un bon accueil.
Oui, un bon accueil.
Les chercheurs font plutôt un bon accueil à ce format-là, parce qu'au fond, il ne s'agit pas de supprimer de l'information, mais plutôt de la condenser et de la rendre un peu plus digeste, avec l'assurance aussi de toucher un lectorat plus grand. Donc ça, c'est quand même très important, je pense, pour la communauté scientifique, de parvenir à faire connaître les recherches et à toucher un grand public, qui est une sorte d'horizon un peu fantasmatique qu'on espère toujours atteindre, mais c'est particulièrement difficile dans un article avec des dizaines de notes de bas de page, éventuellement rebutantes. Ici, il y a ce format court, 20 000 signes pour le dossier, pour la rubrique culturelle, le 19e siècle s'affiche. On réduit encore un peu, on est entre 10 et 15 000 signes. Mais au fond, ce n'est pas la quantité d'informations qui est sacrifiée, c'est plutôt le formalisme, et donc on arrive à quelque chose de plus synthétique. Et parfois, ça permet aussi d'entrer dans certains sujets d'une manière plus rapide et plus dynamique, parce que des films ou des expositions sur lesquelles on se serait pas attardé directement l'année même de leur sortie, parce qu'on attend d'avoir un corpus plus important, que ça devienne quelque chose de représentatif, etc., ça peut être traité immédiatement, à travers le magasin du 19e siècle, donner lieu à une petite réflexion qui est peut-être le point de départ de quelque chose d'autre plus tard. Donc c'est stimulant, je pense, aussi pour les personnes qui écrivent. Ouais. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je le vois.
Et en fait, on pense toujours au lecteur quand on écrit. Je dirais, on se dit, je fais comme ça ou comme ça. Voilà, on essaie de trouver un lecteur qui a, comment dire, un lecteur curieux, pas automatiquement un lecteur lettré, je dirais, mais à quelqu'un de curieux qui a envie d'apprendre, qui a envie de découvrir. Moi, j'ai un passé d'enseignant il y a bien longtemps, mais je pense un petit peu aussi à des élèves, comment dire, de second cycle, des premières terminales, qui doivent pouvoir lire quand même assez facilement le magazine, tout en restant toujours très, je dirais, avec une cohérence scientifique importante. Ça, c'est totalement nécessaire. Et puis, il y a quelque chose ici que les gens apprécient. C'est la manière, par exemple, avec le fleurilège de José Luis, comment on voit comment une thématique se déploie, parce que elles sont généralement classées chronologiquement. Voilà, il y a beaucoup de portes d'entrée où on peut rentrer dans ce siècle-là. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas le temps de faire, je dirais, dans un article pour romantisme, qui serait tout à fait un autre format, qui répond à d'autres exigences et qui sont aussi comme le magazine, avec un comité de rédaction qui décide la publication. Voilà, mais c'est deux temps, je dirais, c'est deux temps différents. Il y en a un, c'est plutôt une lecture universitaire, une lecture de recherche. L'autre, c'est une lecture, je dirais, qui doit être aussi dans une lecture plaisir. Voilà, c'est ça. Une lecture plaisir, toujours, solide.
Petite question annexe. Est-ce qu'il n'y a que des universitaires qui écrivent dans la revue, puisqu'on sait qu'à la fois le 19e, comme d'autres, peut être un domaine privilégié de bibliomanes fous, d'érudits, de collectionneurs, etc. Est-ce qu'ils peuvent avoir le droit de citer? Ça, c'est la première question. Et une sous-question, est-ce que le 19e siècle est un champ de recherche extrêmement vivant? Est-ce qu'il y a beaucoup de chercheurs dans les domaines qui sont les vôtres, à l'intersection, on va dire, de l'histoire littéraire, de la littérature? Voilà. Et puis, troisième petite question, là, qui est plus du côté de la fabrique de la revue, c'est l'iconographie tout à fait impressionnante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en charge particulièrement? Par exemple, Jean-Didier Wagner, qui est dans la catégorie des bibliographes fous, ou voilà.
Non. Bah, je réponds à l'envers, si tu veux. Je commence par l'illustration. C'est Julien qui s'en occupe, Julien Chu qui s'en occupe. Mais bien évidemment, tout le monde l'aide, je dirais. Puis tout le monde a des vœux, bien évidemment. J'aimerais bien avoir cette photo-là. Je dis oui, mais je n'ai pas de version qui soit, comment dire, pour l'impression, ça ne passera jamais, il n'y a pas assez de pixels, etc. Bon, voilà, c'est tout un travail. Mais c'est vrai que je ne veux pas ramener les choses, comment dire, vers le numérique, mais comment les bases de données en ligne, Gallica, Internet Archive, Atitrust, Google Livre, enfin, c'est vraiment pas très bon, Google Livre. Mais les bases anglaises, d'autres bases anglaises, offrent une kyrielle de data, quoi, des images, des textes qu'on n'a jamais vus, ou des choses qui remontent du fond de la bibliothèque qui ont été numérisées. Et le fait qu'on trouve ces choses-là, comme si on pêchait à la ligne, en fait, on tape un mot et puis tout d'un coup monte un livre. J'ai 30 ans de bibliothèque, je ne l'ai jamais vu. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Vous voyez, c'est quelque chose qui amène immédiatement la curiosité. Donc on commence à tirer, voir, on se le classe dans un coin, etc. On le stocke, on trouve des images. Tout ça, ça nourrit. Je pense que tout est lié à l'explosion du numérique aussi. Ça a complètement modifié le rapport à la recherche. C'est-à-dire que là où seul le bibliothécaire pouvait aller farfouiller dans les magasins, regarder dans les rayonnages des livres qu'on personne n'a jamais vus, là, on les met carrément sous les yeux des gens. Voilà. Et tout d'un coup, ben, la magie opère, c'est automatique. C'est-à-dire quelqu'un va voir naître une problématique ou sa problématique être illustrée par un autre, par d'autres data, etc. Donc, c'est pas quelque chose... Et pour nous, je dirais, on est particulièrement bien aimés parce que, en fait, le copyright fait que pratiquement tout le 19e siècle, plus même des éditions annotées, critiques du 19e siècle ou du début du 20e, sont dans le domaine public. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui s'intéresserait à Alain Robbe-Grillet, par exemple. Il n'a pas trouvé beaucoup de choses, à part sur les bases de données en ligne de colloques, de revues, simplement. Nous, on trouve des choses qui viennent nourrir constamment le magasin. Le florilège, c'est une explosion à partir de tout cela.
Je vais peut-être répondre sur les personnes qui écrivent dans le magasin et plus généralement sur l'ensemble des adhérents de la CERD. Avec la CERD, on se trouve dans une sorte d'infrastructure de recherche, pour employer volontairement un mot beaucoup trop gros et pas adapté. C'est un ensemble de chercheurs qui ne sont pas tous des chercheurs universitaires. L'idée du magasin, de la CERD, je crois, et des sociabilités scientifiques qui s'y rattachent, c'est de faire le lien entre une recherche institutionnelle, d'infrastructure de recherche, une recherche universitaire et une recherche associative qui est beaucoup plus large, extrêmement riche, extrêmement active. Et d'ailleurs, Entrevue le sait bien parce que toutes ces associations viennent présenter leurs revues chaque année. Et donc, au magasin, je pense qu'on a une bonne représentation de cette collaboration entre différents cercles de chercheurs qui, en fait, se mêlent, parce que la CERD, c'est aussi des liens avec des associations d'auteurs extrêmement nombreuses qui sont amenées à collaborer au magasin aussi. Donc, ce n'est pas une recherche purement universitaire, c'est une recherche associative qui intègre des chercheurs professionnels et des chercheurs amateurs.
J'enchaîne un peu, c'est parce que effectivement, je pensais aussi aux sociétés d'amis d'auteurs qui sont fort nombreuses, qui s'estiment souvent, parce que on sait très bien qu'elles ont un statut. On a essayé de les étudier dans la revue, un statut un peu parallèle. Elles sont un peu à l'écart, elles se sentent mal aimées, pas reconnues, etc. Alors il y a des gens qui peuvent faire la jointure. Vous parliez de Julien Chou, effectivement. Là, il n'y a pas de souci. D'autres se sentent toujours dans cette position mal aimée, c'est-à-dire comme s'ils faisaient un travail de débroussaillage, de piochage, d'érudition, mais finalement sans être reconnus. Donc, c'est bien qu'ils puissent trouver un endroit où ils ne vont pas effectivement mettre leur récup à eux dedans, mais en tout cas, où ils peuvent peut-être être un apport de richesse et de savoir, effectivement.
Tout à fait.
Par rapport à la thématique précise de ce numéro, il y a une chose, on parle d'antinomie dans l'introduction même du numéro, ce n'est pas celle-ci que je voudrais signaler, c'est vous parlez de l'art, de la récupération de l'art, c'est-à-dire quelque chose qui est noble. Quand récupération, on imagine aussi bien le déchet, là ce sera plutôt le recyclage ou la seconde main. Est-ce qu'il y a des ponts faits avec les thématiques environnementales ô combien d'actualité aujourd'hui ?
J'ai pas bien compris votre question.
C'est-à-dire que lorsqu'on parle aujourd'hui beaucoup des problèmes environnementaux,
oui.
Le réchauffement climatique, il fait bon dans cette salle, mais et tous ces sujets qui occupent largement l'actualité. On parle aussi de frugalité, par exemple, mais aussi de recyclage, mais aussi de stopper les gaspillages. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce numéro du magasin ?
Ils recyclent essentiellement donc beaucoup de choses, énormément. Mais en fait, c'est un recyclage. D'abord, au niveau d'art, si on parle d'art, et je dirais les chiffonniers, c'est une aristocratie en Paris. C'est-à-dire que ce sont des gens qui d'ailleurs ont une plaque, la police va les repérer bien évidemment, une plaque, une note, un numéro, etc. Mais ils savent très bien comment recycler, je dirais, l'ensemble des déchets. Et le gros problème qui va arriver pour eux, ça va être la poubelle, avec le préfet poubelle qui va imposer la poubelle là. Et ça va... Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils reprennent par exemple le verre, l'os, les cheveux. Ils sont capables de récupérer tous les cheveux dans des poubelles et de, les vendre en stock à des perruquiers dont je vous parlais tout à l'heure, à propos justement de la, j'ai un problème avec ce nom, avec la morgue, je ne sais pas pourquoi, j'ai un problème avec la morgue, je vais y finir peut-être, je ne sais pas. Donc ils récupèrent tout, les regrattiers regardent, tous les morceaux de fer, etc., sont refondus. Et c'est une opération. Comment dire, c'est une. Après, je vous parlerai de calque, ce sera plus facile. C'est une opération, je dirais, qui est de l'ordre industriel, pratiquement industriel. C'est-à-dire que tout est classé, tout est redirigé vers des spécialistes. Les spécialistes de l'os, ils savent très bien faire du noir avec de l'os. Les spécialistes du pain savent faire même des gâteaux pour les enfants avec des vieilles croûtes de pain. Oui, ça existe. Les spécialistes, comment dire, des vers vont faire autant des vers pour la pêche à la ligne que des vers pour nourrir des rossignols, etc., etc. Alors, si vous voulez que je vous laisse un nom là-dessus, c'est Alexandre Privat d'Anglemont. C'est ce personnage-là. Est un personnage extraordinaire. C'est Murger disait de lui que c'était la bohème, en fait. Beaucoup de gens ont pensé que c'était la Palferine, c'est-à-dire le héros de Balzac dans Un prince de la bohème, ce qu'il n'est pas, ce n'est pas lui. Et ce personnage-là a passé sa vie, je dirais, en compagnie justement des chiffonniers et du Paris le plus misérable. Alors ce Paris le plus misérable, il n'est pas loin d'ici. Il suffit de monter jusqu'au Panthéon et toute la partie qui redescend après, du côté le lycée Henri IV, après tout ce qui redescend était jusqu'à la place Maubert, était un quartier essentiellement de recyclage et tout, je dirais, aboutissait ici. En même temps, il y en avait d'autres du côté de la place Italie, hein, la rue Mouffetard par exemple. Dans la rue Mouffetard, vous aviez le café qui était le centre même, je dirais, des associations de chiffonniers. Et voilà. Et vous aviez un Paris dans lequel tout ce qui est il y a une sorte de poubelle jaune qu'on a mis pour rire, poubelle verte, je ne me rappelle plus, sur la couverture. Mais c'est ça, en fait. Paris serait complètement saturé, je dirais, de morceaux de ferraille, de morceaux de bois, de morceaux de cheveux, d'os, etc., de morceaux de pain, si les chiffonniers ne recyclaient pas, je dirais, l'ensemble de tout ce que les Français et Parisiens rejetaient. Et alors ce personnage, Privat d'Anglemont, moi je le considère un peu comme un des premiers, je dirais, reporters en immersion, puisqu'il a passé sa vie, je dirais, pratiquement, pas uniquement parmi eux, mais très souvent, et il a écrit deux livres, je crois que ça se trouve chez Grasset dans la collection Rouge, c'est Paris Anecdote et Paris Inconnu. Et lorsque vous rentrez là-dedans, vous avez tout l'univers des chiffonniers qui est entièrement décrit, et tout l'univers de ce recyclage, voilà. On est dans une civilisation du jetable, ils ne sont pas dans une civilisation du jetable, quand même.
Oui, enfin, on est dans une situation du jetable...
On est dans un monde de la réparation, au moins pour les classes moyennes. Je dirais, une paire de chaussures, un habit, il n'y en a pas 50 dans l'armoire de la classe moyenne. Hein. C'est une récupération pour faire, justement... soit du neuf, soit de... voilà, c'est la survie, en fait. Hein,
ah non, mais ça, je vois très bien ce que font les chiffonniers. Par rapport à aujourd'hui...
On n'a pas les mêmes modèles.
Ouais.
Par exemple, la mode ou la sensibilité à la mode, au 19e siècle, c'est quand même la bourgeoisie, une bourgeoisie déjà aisée, ou l'aristocratie. Le peuple parisien, je dirais, c'est le peuple de la blouse pour l'ouvrier. Seuls, je dirais, les jeunes filles, les grisettes, etc., s'amusent à s'imaginer des vêtements, du madras, des choses comme ça. C'est pas du tout le même monde, c'est vraiment pas le même monde. Aujourd'hui, on a, on va changer son poste de téléviseur parce que nouveau, il est 12K, etc. C'est pas du tout le même monde.
Mais c'est-à-dire que même en creusant, non, je vois bien que c'est pas non, le même monde, j'y vis, ouais. Mais en creusant, il y a rien à tirer de parallèles possibles qui, pour des choix politiques, n'ont pas été suivis.
C'est des économies de subsistance, même, parce que les chiffonniers vivent avec ça. Les chiffonniers vivent avec ça. Par contre, ce que disait Privat d'Anglemont, c'est que c'est un capitalisme en petit. C'est-à-dire que, comme dans le capitalisme, il y a un prolétariat et puis il y a des patrons. Et là, on retrouve la même chose, c'est-à-dire il y a des grades dans les chiffonniers, depuis celui qui ramasse, je dirais, sur les bornes le truc, celui qui va centraliser les premières choses collectées, et ensuite les grossistes qui vont les revendre. Vous voyez, il y a c'est tout un monde, et c'est ça qu'il dit à un certain moment, c'est un creusot en petit. C'est, vous voyez, mais ce sont des économies de subsistance quand même, parce que ces gens-là, s'ils n'ont pas ça, ils crèvent de faim, hein, tout simplement.
Justement, c'est un peu ça, puisque c'était le rapport que tu esquisses entre la misère, la survie et la récup. Voilà. Ça, c'est intéressant, parce qu'on peut récupérer tout simplement pour fonder une petite entreprise. Parfois, on récupère parce que c'est nécessaire simplement pour bouffer. Oui, oui. C'est deux choses. Et puis, est-ce qu'il y a une guerre de la récup, justement ?
Ben, il y a des monopoles, quand même. Il y a des coins qui sont pour certains chiffonniers, d'autres pour d'autres. Il y a des, comme ça, une sorte... Mais ça existe toujours, hein, ça. Oui. Ça existe toujours. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on voit l'art de la récup au niveau des chiffonniers. Mais si on repart, par exemple, sur le domaine de la presse, on s'aperçoit qu'un article, par exemple, peut être récupéré par un autre journal, ce qu'on appelle les journaux voleurs, ce que Sarah Bromberg a son très bel article. Il y a aussi d'autres cycles encore. Vous avez le cycle du livre, hein, puisque, comment dire, c'est l'article de Marine Le Bail sur la bibliophilie, où on s'aperçoit que il y a tant de livres. Et puis, comme on disait à l'époque, c'est Sandov qui le dit, vous savez, Sandov, avant Andy Warhol, a dit « Tout le monde aura un quart d'heure de célébrité ». Et ça, c'est dans Sandov, c'est étonnant. Et ça se réarticule avec la thématique de tout à l'heure, la machine à gloire. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une telle débauche d'impressions de livres qui vont durer quoi, une saison, trois mois, et puis ensuite un pilonnage généralisé des livres. Où, en fait, il y a un circuit du rebut bibliographique de livres, en fait, qui s'organise aussi. Donc, et dans lequel les bibliophiles fous vont aller regarder si on ne peut pas récupérer des choses que personne n'a vues, etc., etc. Donc, de la récupération, il y en a partout, en fait.
Je me demandais si dans le domaine de la peinture, il y avait aussi de la récup. Parce que je trouve ça intéressant. Est-ce que sous une toile qu'on peut connaître, il y a une autre toile d'un peintre inconnu ou que ce même peintre a récupéré pour l'amender ou complètement la transformer?
En fait, c'est une question à laquelle j'avais presque envie de répondre en vous écoutant, parce que dans la rubrique le 19e siècle à l'avant-garde, alors là, je parle plutôt du 20e siècle, mais du 20e siècle qui s'inspire du 19e, dans la rubrique le 19e siècle à l'avant-garde, on a l'impression d'être, depuis le début du magazin, dans la question du recyclage, de la récupération, etc. Et la pratique de ces artistes vers lesquels on est allé, c'est souvent, elle part souvent d'une volonté de ne pas perdre des étapes intermédiaires de l'œuvre, ou alors des objets qui ont pu participer de la formation de leur œil ou de leur formation littéraire, intellectuelle plus généralement. Et donc, ce sont ces objets qui ont construit leur culture, qui sont récupérés dans les œuvres. Et ce sont aussi des étapes de leur propre élaboration qui sont récupérées dans le final. Mais parfois, ce sont des œuvres d'autres peintres ou d'autres artistes. Je parlais tout à l'heure de Witkin et de la manière dont il a récupéré des objets et puis parfois... carrément des corps, des parties de corps. Mais je pense aussi à Marcus Kinwald qui est intervenu dans un numéro du magazin qui a pour pratique de récupérer de vieux tableaux, souvent des tableaux de genre du 19e siècle ou même du 18e siècle, et de retravailler sur ces tableaux en les restaurant et en les transformant. Donc les tableaux sont... d'abord restaurés, mais parfois aussi repeints en partie. Et donc, de nouveaux personnages s'intègrent, ou alors des appareils qui expliquent un peu la manière dont le personnage se tient. Et donc, on se trouve face à des œuvres anciennes et modernes, donc un support original assez ancien qu'il a souvent chiné, trouvé dans une brocante, et à partir duquel il a retravaillé. Et donc, ça donne des installations assez surprenantes.
Oui, pour rebondir sur la question d'André, il y a un exemple qu'on pourrait citer de récupération dans le domaine de la peinture. Vous parliez tout à l'heure de Murger, c'est le passage de la mer Rouge. Où le peintre lui-même présente chaque année la même toile qui est systématiquement refusée. Et en fait, c'est tout les gens du salon savent très bien, le jury du salon sait très bien que c'est le passage, que c'est la même toile qu'on leur présente chaque année. Bon. Et sur la récupération des œuvres d'art, il y a une pratique, mais qui est plus tardive de récupération, mais que je signale simplement parce que c'est un cas un peu à part. Ce dont vous avez parlé là, ça me semble être un dérivé d'une pratique qui est une pratique des faussaires. Parce qu'il se trouve qu'au XXe siècle, à partir du moment où on a commencé à faire des analyses de pigments de toile, pour que ça ne abîme le moins possible les œuvres, on prend les pigments, on prélève d'une part la plus petite partie possible de pigments et on la prend sur le bord du cadre. Donc il y a eu toute une pratique qui s'est développée, mais ça c'est plus tardivement, c'est au XXe siècle, de faussaires qui rachetaient des vieilles toiles, qui gardaient l'extérieur, qui pouvait dater du XVIIe siècle, XVIIIe, et qui peignaient le centre, qui faisaient de magnifiques faux poussins ou faux vateaux. Voilà. Et au XIXe, là c'était juste bon pour signaler, mais au XIXe, étant donné le prix des toiles, de la peinture, tout ça coûte cher, on le voit... Il suffit de lire Manet, Salomon, des Goncourt, bon, avec le singe qui mange la peinture. Tout ça coûtait extrêmement cher et beaucoup de la récupération, c'est la vie quotidienne du peintre au 19e.
Bien sûr. Non, je suis sensible à votre mioget puisque je travaille là-dessus justement. C'est une excellente remarque. Ouais. Et en fait. Le problème des couleurs, par exemple, dans les buveurs d'eau, en fait, c'était le principal souci d'avoir assez d'argent pour acheter du cadmium, qui était le plus cher. Voilà. Et du jaune cadmium.
Je pense à un autre exemple dans le numéro sur la récup. Elina Brozerus nous raconte que l'une des séries de photographies qu'elle a faites a une tonalité, une coloration particulière, parce que c'est du papier photographique de récupération. Et donc, je crois que le point commun des artistes rencontrés par le magasin, c'est cette volonté d'intégrer une récupération intellectuelle, mais aussi de travailler sur un matériel éventuellement déjà éprouvé. Et donc, Elina Brozerus est tout à fait représentative de cette tendance-là, comme Marcus Schoenwald avec les tableaux qu'il rachète. Elle a aussi récupéré ce papier photographique un peu endommagé, un peu ancien, qui peut-être avait déjà été coloré, mais qui lui a permis de produire quelque chose d'un peu différent.
Il y a des traits esthétiques au XIXe siècle qui sont souvent dans la presse, par exemple, dans les petits journaux, qui sont tout à fait, je dirais, connectés à l'art moderne, par exemple. Il y a des articles sur les vitrines. Qui s'intéresse aux vitrines, d'écrire les vitrines, d'écrire les affiches déchirées, c'est du vilain avant la lettre. Vous voyez, donc il y a dans toute la, bon, je vais pas venir sur mes dadas habituels, mais dans toute la bohème littéraire des petits journaux, ils ont des sensibilités qui sont pas si éloignées, je dirais, de pratiques contemporaines, de pratiques urbaines en fait, hein, puisqu'ils sont justement des urbains qui vivent dans la ville et sur la ville, souvent, parce que la pauvreté est quand même toujours là. Et il y a cette idée, comment dire, que rien ne se perd, voilà, tout se transforme, tout simplement. Il y a aussi un thème que je voulais souligner, c'est que, par exemple, le fait qu'il travaille tout le temps dans la presse, il publie pratiquement, pour les écrivains, les moins nantis, hein, ben, je ne parle pas de Théophile Gautier ou de Barbey d'Aurevilly ou de Sainte-Beuve, qui sont des vedettes des journaux dans lesquels ils publient les feuilletons, mais les autres petits journalistes, en fait, ils sont tout le temps en demande, les journaux leur demandent tout le temps de la copie, et quand vous avez le temps de faire votre œuvre, en fait, leur œuvre, ils la font à l'intérieur des journaux. Et en fait, ensuite, ils recyclent tout ce qu'ils ont fait dans les journaux sous la forme d'un livre. Hein, c'est pas uniquement publier un roman en feuilleton, ça c'est une autre chose, mais d'avoir une sorte de dynamique où la presse et le livre sont en recyclage permanent, vous voyez. C'est des choses qui sont très intéressantes et qui, bon, qui sont un peu des pratiques qui existent aujourd'hui. Hein, des journalistes, qu'ils soient des journalistes littéraires ou politiques, ont l'habitude aujourd'hui de publier leurs chroniques en volume. Ça existe. Mais ça commence à cette époque-là aussi. Hein.
Je vous posais au début la question des bornes temporelles du 19e siècle. Le siège de le secrétariat de la revue est donc à l'université Paris Diderot. Le siège, ou du moins le bureau de l'association, se trouve, lui, dans le 11e arrondissement. Paris était le centre du monde au 19e siècle, ou est-ce que c'est critiqué par les universitaires? Et est-ce que vous échappez à l'écueil du nombre de représentations de Paris, notamment dans ce beau numéro?
Et c'est quelque chose qui est... comment dire, justement, on a des projets de thématiques qui ne seront pas automatiquement Paris. Non, mais vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison là-dessus. C'est vrai que Paris est construit comme la capitale du 19e. Je veux dire, c'est du Benjamin. Bon, justement, en plus, il y a un livre qui sur Benjamin qui paraît à la Maison des sciences de l'homme, j'ai vu. Mais c'est évident que si on parle de recyclage, par exemple, toute la presse parisienne se recycle aussi en province. C'est-à-dire que par le biais à la fois des journaux voleurs ou des contrats passés avec la Société des gens de lettres ou avec d'autres journaux, les articles de Paris deviennent aussi des articles de variété dans la presse de Bordeaux, de Marseille, etc. Et que le monde des journaux en province est un iceberg. C'est un iceberg qu'on ne connaît pas bien aujourd'hui. Ça, il faut le reconnaître. Mais c'est énorme ce qu'il peut y avoir. Autant de petits journaux que de grands journaux, je dirais, dans la France, en dehors de Paris. C'est prodigieux. C'est comme, si vous voulez, c'est un peu... C'est la même proportion... comment vous dire, c'est très difficile de trouver... J'ai pas les chiffres avec moi, mais je pense qu'il y a au moins 5 journaux en province pour un journal parisien. Et dans Paris, il y en a 800 ou 1000 qui fonctionnent à peu près en parallèle. Vous voyez. Donc c'est... C'est à la fois une bonne remarque et aussi un continent encore à explorer. Comment fonctionnent les journaux en province, par exemple? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps, mais il faudrait 3 vies hein, pour le faire.
Et quant au reste du monde?
Au reste du monde,
c'est... Puisque c'était aussi le siècle des explorations.
Déjà, comme dit Alain Vaillant il y a longtemps, on est déjà dans une mondialisation. On est dans une mondialisation et, le câble, les correspondances étrangères font que, je dirais, l'actualité arrive à Paris avec un délai, bien sûr, plus long qu'aujourd'hui, hein, mais elle arrive. C'est-à-dire que même Paris détient, je dirais, au niveau de la presse, plusieurs journaux en langues étrangères. Quand vous êtes anglais et que vous arrivez à Paris, vous avez votre journal en langue anglaise. Que vous soyez allemand, c'est la même chose. Et à l'étranger aussi, vous avez des journaux en langue française, en Angleterre, même en Brésil, etc. Il y a une circulation au niveau de la presse qui est prodigieuse. C'est une révolution, si vous voulez, c'est cette révolution que Dominique Khalifa et Alain Vaillant ont posée avec l'entrée du journal La Presse de Girardin et du siècle de Dutac, qui fait rentrer, je dirais, le 19e dans une civilisation d'information, en fait. Et mondialisée, bien évidemment, avec tous les moyens techniques de les presses à imprimerie, bientôt le câble, le télégraphe, le câble, les dépêches. C'est un monde qui est très proche du nôtre si on superpose Internet et la presse. C'est sans vouloir faire d'anachronisme, vous avez des choses qui sont très particulièrement proches. Les petits journaux littéraires, par exemple, ce sont des sites. Ce sont des sites identitaires dans lesquels certains communiquent pour se faire connaître. Vous voyez, il ne faut pas pousser l'anachronisme trop loin, mais vous avez des comportements anthropologiques qui soient dans l'imprimé ou dans le numérique qui sont proches, tout simplement. Quant à ce qu'on appelle aujourd'hui, le puff aujourd'hui, c'est le buzz, voilà, le buzz. Le buzz aujourd'hui existe au 19e, on l'appelle le puff, P-U-2-F. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très étonnantes, en fait, le 19e et la préhistoire de notre, en fait. Technologiquement, au niveau communicationnel, c'est notre préhistoire, en fait. C'est pour ça qu'on trouve énormément de choses.
Juste un petit point sur le rayonnement de Paris. Il y a un autre domaine Vous évoquiez tout à l'heure un de vos collaborateurs éminents, Jean-Claude Yon, spécialiste de l'histoire du théâtre, qui a pu comparer vraiment l'industrie théâtrale parisienne au cinéma hollywoodien. C'est-à-dire que sur le 19e siècle, sur l'ensemble du siècle, il y a eu une création par jour, en comptant que la liberté d'État, il faut attendre le 1860, je crois, l'Empire libéral, pour la liberté des théâtres. Jusque-là, il y a un nombre limité de théâtres à Paris. Donc, il y a eu une création par jour et énormément de spectacles voyageaient non seulement en province, mais aussi à l'étranger et dans le monde entier. Aux États-Unis, il y avait le Théâtre Michel à Saint-Pétersbourg qui jouait en français. Sacha Guitry s'appelle Sacha parce qu'il est né là-bas avec et Lucien jouait devant la cour du tsar en français. C'est aussi un élément d'un rayonnement dont on n'a pas forcément d'idée aujourd'hui.
Le poids du théâtre 19e est supérieur au poids de la littérature. Là, dans un journal où vous avez de la critique théâtrale, vous n'avez peut-être pas de la critique littéraire, hein. C'est pas obligatoire. Mais vous avez la critique théâtrale qui occupe le devant de la scène avec la critique du salon, le salon de peinture. Voilà, c'est peut-être un feuilleton, scientifique aussi. Mais la critique littéraire, elle n'est pas toujours là, en fait. Elle n'est pas toujours là. Mais le théâtre prend le devant de tout le divertissement. Et c'est tout à fait vrai, je veux dire. Par exemple, on connaît bien à travers Sarah, ou avec les livres du genre Marie Colombier, Sarah Barnum, ou des choses comme ça. Mais même au niveau des cirques, ça circule de l'Angleterre, de l'Italie, de la Russie vers la France. Les artistes forains, si vous voulez, circulent de pays en pays. Et d'ailleurs, justement, ramènent des nouveautés à Paris.
Une autre grande question qui se pose et qui rejoint l'une qui a été posée tout à l'heure par Flora Bell, par moi-même, par rapport à la thématique de la récupération et des thématiques de l'actualité, ce qu'il en est des réévaluations historiques et au sein même de l'université, des études, par exemple, postcoloniales, par rapport à ce 19e siècle qui a posé les bases géostratégiques, politiques, tout ce qu'on veut, du monde dans lequel nous vivons. Qu'en est-il de sa résonance dans le magasin ?
La question postcoloniale, comme la question du genre aujourd'hui, sont forcément des questions théoriques que posent les productions culturelles qui parlent du 19e siècle. Donc très souvent, précisément dans la rubrique « Le 19e siècle s'affiche », cette confrontation entre une théorie actuelle et un matériau ancien se pose. On a essayé dans la revue d'être aussi ouvert que possible à différentes propositions théoriques en gardant un espace de discussion, en essayant de ne pas ni de donner de ligne éditoriale sur ce plan, ni de taire les questions qui pouvaient se poser ces matériaux anciens repris, retravaillés. Et ça se pose tout particulièrement au moment des commémorations, puisque là, précisément, il s'agit de réévaluer un événement, une figure, de savoir ce que cette figure nous apporte, et de travailler avec un point de vue de chercheur sur ce qui, en fait, est souvent une machine culturelle et politique assez bien huilée et assez puissante, de faire un pas de côté vis-à-vis de ces commémorations et essayer de comprendre ce qu'elles ont pu apporter en termes de connaissances, en termes de discussions, de nouvelles questions qui se sont posées, de redécouvertes, sans entrer dans la commémoration elle-même, de regarder la commémoration et ce à quoi elle nous sert aussi aujourd'hui du point de vue scientifique, culturel et politique.